Nous avons perdu le monde ouvrier. Déclaration du pape Pie XI en 1931.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À partir du XIXe siècle, le monde catholique a dû faire face à une nouveauté et un changement à la fois économique et social considérable, c'est la révolution industrielle. Et par là même, le développement conséquent du monde ouvrier qui, à partir du milieu du XIXe siècle, va être une des questions les plus débattues dans les sociétés industrialisées. Or, l'Église a le sentiment d'une déchristianisation du milieu ouvrier. On en trouve des traces dès le XIXe siècle, mais cela s'accentue dans la première moitié du XXe siècle. En 1927, le père Pierre Yande avait publié un livre qui avait fait impression, « Le Christ dans la banlieue », qui était un recueil d'articles qu'il avait fait pour la revue Études, et où il montrait que dans la banlieue parisienne, il y avait indéniablement une difficulté à christianiser les nouvelles villes ouvrières. Deux autres recueils, d'ailleurs, d'articles devaient suivre en 1930 et 1931. Alors, face à cette question, l'Église ne manqua pas de réagir. D'abord, en 1927, est créée en France la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Son homologue belge avait été créé 2 ans auparavant. Encadrer la jeunesse ouvrière était donc le but de la JOC. Et d'ailleurs, pour les 10 ans de cette organisation, eh bien, il y eut une réunion de 700 000 jeunes ouvriers et ouvrières dans la zone du Parc des Princes à Paris, où une grande messe a été célébrée. Donc la JOC a indéniablement marqué l'époque. Mais il y a d'autres initiatives, comme par exemple celle du cardinal Verdier, qui crée en 1931 les chantiers du cardinal, qui vise à créer un maillage de paroisses dans les grandes banlieues parisiennes qui ne cessent de grandir. Qui plus est, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le diocèse de Paris ne couvre pas que Paris intramuros, mais couvre les régions aux alentours qui aujourd'hui correspondent par exemple à l'Essonne ou aux Hauts-de-Seine. Les nouveaux diocèses n'étant créés qu'en 1966. Donc le cardinal Verdier et ses successeurs ont à gérer une immense zone où il faut envisager véritablement de participer à la christianisation par la création de paroisses. Il y a également un livre qui, pendant l'occupation, avait interrogé les milieux catholiques. C'est un livre célèbre de 1943, « France, terre de mission, point d'interrogation », écrit par deux prêtres, Henri Gaudin et Yves Daniel. Quand on lit cet ouvrage, à vrai dire, à la fin de la lecture, on enlève le point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a des zones de France dont la zone parisienne, mais également une partie du sud-ouest, de la Provence, de la Lorraine, qui mériterait d'être à nouveau terre de mission. Et on se rend compte effectivement que la question ouvrière devient centrale. Il y a bien un problème de développement et d'évangélisation dans ces milieux. Alors comment y résoudre les problèmes? Il y a eu au tout début, dans les années de l'entre-deux-guerres, des initiatives individuelles. C'est ce que l'on a appelé les prêtres ouvriers. Le premier des prêtres ouvriers, c'est un prêtre belge du diocèse de Liège, Charles Bolland, qui avait accepté de vivre la vie des mineurs de son diocèse et était descendu dans la mine à Serein, en 1921. Un de ses confrères français, Michel Lémonon, était lui-même devenu mineur à Saint-Étienne en 1935. Mais on peut dire que c'est vraiment les années 40 et le début des années 50 qui vont véritablement développer le phénomène des prêtres ouvriers. Non seulement une partie de ces prêtres se rend compte de la déchristianisation du monde ouvrier, mais ils sont aussi marqués par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux prêtres et séminaristes ont été mobilisés en 1939. Voire même, pendant l'occupation, ont pu être réquisitionnés pour aller travailler en Allemagne, dans le biais du STO. Et donc, ils ont été au contact de la réalité quotidienne, dans les camps de prisonniers ou dans les zones de travail, avec des ouvriers français. Et cette prise de conscience a entraîné un développement, dès la guerre, d'initiatives pour aller travailler auprès des ouvriers afin de les évangéliser. C'est le cas, par exemple, en 1942, de Jacques Leuf, qui devient docker au port de Marseille et qui travailla jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, le cardinal Suard, qui avait succédé en 1940 au cardinal Verdier, avait créé la Mission de Paris, qui était destinée spécifiquement à former des prêtres pour évangéliser la classe ouvrière. Alors, l'après-guerre arrive et la reconstruction débute. Et c'est là, véritablement, où va décoller le véritable mouvement des prêtres ouvriers. En effet, à partir de 1945, et la parution du livre d'Henri Perrin, « Journal d'un prêtre ouvrier » en Allemagne, il y a plusieurs dizaines de prêtres français qui décident de s'engager dans le monde du travail. Vous les retrouvez dans les usines sidérurgiques, dans les gares, dans les ports, dans les mines, dans des usines textiles, etc. Or, ils s'engagent également, dans le monde, au sens séculier du terme. Des fois, certains adhèrent à la CGT. Et d'ailleurs, en 1951, un prêtre, Henri Barrault, de Paris, avait été élu au secrétariat de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de la Seine. Ils peuvent s'engager éventuellement auprès du Parti communiste, sans adhérer forcément au parti, mais on les retrouve auprès des pétitions que lance le Parti communiste contre la guerre en Corée, contre l'impérialisme américain. Et par exemple, le 28 mai 1952, il y avait eu une manifestation contre le général Ridgway, où deux prêtres ouvriers avaient été arrêtés et internés. D'ailleurs, cette année 1952 est aussi une année importante parce que est publié le livre de Gilbert Cesbron, « Les saints vont en enfer », qui va populariser véritablement la question des prêtres ouvriers. La crise éclate véritablement en 1953-54. En effet, à Rome, on s'inquiète quelque peu de cette expérience des prêtres ouvriers. Le Saint-Office s'inquiète de l'alignement d'une partie de ces prêtres ouvriers auprès de la CGT et du Parti communiste. Et il s'en inquiète d'autant plus que dans le cadre de la guerre froide, l'Église catholique est clairement sur une position anticommuniste. D'ailleurs, en 1949, un décret du Saint-Office avait frappé d'excommunication les catholiques qui adhéreraient au Parti communiste italien. L'expérience est mise en danger. D'autant plus qu'à cela s'ajoutent d'autres critiques. Est-ce qu'il n'y a pas une désacralisation du rôle du prêtre quand on le voit travailler dans une gare ou dans un port? Est-ce qu'il y a véritablement le temps à faire la prière des heures, à faire une activité véritablement pastorale dans une paroisse alors que l'on travaille? Au demeurant, la plupart des prêtres ouvriers ne travaillent pas à plein temps, ils sont plutôt à mi-temps. En février 1954, une délégation d'évêques et cardinaux français, parmi eux les cardinaux Gerlier, Liénard, Feltin, était allé à Rome, avait rencontré le cardinal Ottaviani et le pape Pie XII pour essayer de sauver l'expérience des prêtres ouvriers en montrant tout de même qu'il y avait un aspect pastoral qu'on ne pouvait pas complètement négliger. Or, la sanction tombe le 1er mars 1954. Interdiction est faite aux prêtres ouvriers de travailler plus de 3 heures par jour et d'exercer des responsabilités syndicales. Certains vont se plier sur environ 120 prêtres ouvriers. Il y a à peu près 80 qui acceptent la décision de Rome. Mais une quarantaine décide de quitter le sacerdoce à ce moment-là. D'autre part, il y a une deuxième interdiction, celle de 1959, qui passe un peu inaperçue, qui est décidée par le pape Jean XXIII, et qui décide que les prêtres ne peuvent pas du tout avoir un travail salarié. Le Concile Vatican II va revenir un peu sur cette décision, puisque le 23 octobre 1965, après une rencontre entre l'épiscopat français et le pape Paul VI, eh bien, les prêtres sont à nouveau autorisés à travailler. Résultat, en 1976, il y a à peu près 800 prêtres au travail en France. Par la suite, l'expérience des prêtres ouvriers va entrer, je dirais, dans une progressive érosion, mais comme d'ailleurs le nombre tout simplement de prêtres, puisque en 2005, il y a à peu près 80 prêtres qui sont encore avec une activité professionnelle. Et en 2020, eh bien, une quinzaine était encore en activité. La personne qui vous parle voudrait vous témoigner d'une rencontre que j'avais eue en 2019 auprès d'un colloque qui avait été organisé par des prêtres ouvriers à Montauban et qui réunissait quelques dizaines de prêtres dont les plus jeunes étaient des septuagénaires et dont le plus âgé avait 93 ans. Ils avaient tous été prêtres ouvriers à un moment ou à un autre de leur sacerdoce. Et je me souviendrai effectivement de ce petit dialogue que j'avais eu avec le doyen du groupe, âgé donc de 93 ans, et qui me disait, vous savez, cette expérience des prêtres ouvriers, elle a fait vraiment partie de ma vie de foi et de ma vie de prêtre. Et je dois avouer ne pas avoir eu une réponse, je dirais, extrêmement intelligente, et je lui ai dit que je respectais tout simplement cet engagement et qu'il avait sans doute, d'une manière ou d'une autre, suivi le Christ.